Bah, ça commence bien ce matin. Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois. Guy Le Polarski au micro. Vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec son président Hervé Delouche, qui est aujourd'hui avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour Guy.
Alors au sommaire de ce Variation en noir numéro 24 janvier 2016, un roman dont nous avons eu envie de vous parler, Ils savent tout de vous, et son auteur qui trace sa route, Ian Levison. Et pour que vous sachiez tout des littératures policières, il sera aussi question du dernier numéro de la revue 813, tout frais sorti de l'imprimerie, numéro 123, 1, 2, 3, donc numéro 123 de la revue trimestrielle de l'association 813, les amis des littératures policières. Hervé, ils savent tout de vous, un roman qui renvoie au rayon des accessoires périmés le sérum de vérité.
Oui, absolument. Je ne sais pas, peut-être, est-ce qu'on dit quand même quelques mots de Ian Levison?
Comme tu veux, encore.
Ouais. Peut-être parce que c'est un auteur, on a, ben voilà, je crois qu'il y a 6 romans publiés maintenant. On doit ça à aux éditions Liana Levy qui l'ont lancé et qui le suivent avec un succès grandissant depuis le début. Il faut dire aussi que il est traduit à chaque fois de l'américain par Fanchita Gonzalez Battle, et c'est vraiment un beau boulot. Ian Levison, c'est quand même quelqu'un qui a eu un parcours un peu atypique et qui me semble quand même tout à fait intéressant par rapport à l'écrivain qu'il est, un peu comme un Jean Mecker a pu l'avoir, quoi. C'est-à-dire que Levison, il est né à Aberdeen en Écosse, d'une famille voilà, qui avait pas d'argent, il a vécu dans un des quartiers les plus pauvres et tout. Bon, après il y a eu des allers-retours, il est allé il est allé au Canada avec ses parents, et puis l'Écosse lui a manqué, il y est retourné, mais c'était vers le milieu des années 80, où comme on le sait, suite à une certaine politique d'austérité, c'est peu dire, et très anti-ouvrière, la misère sociale régnait, le chômage et tout, et donc il est allé s'installer aux États-Unis, et là, il y a des choses, il y a un extrait que j'ai retrouvé d'un de ses livres, Tribulation d'un précaire, qui était, je crois, son premier ou un de ses deux premiers livres, où il disait ça. Au cours des 10 dernières années, j'ai eu 42 emplois dans 6 états différents. J'en ai laissé tomber 30, on m'a viré de 9. Quant aux 3 autres, ça a été un peu confus, c'est parfois difficile de dire exactement ce qui s'est passé. Vous savez seulement qu'il vaut mieux ne pas vous représenter le lendemain. Sans m'en rendre compte, je suis devenu un travailleur itinérant, une version moderne du Tom Joad des Raisins de la Colère, à 2 différences près. Si vous demandiez à Tom Joad de quoi il vivait, il vous répondait « Je suis ouvrier agricole. Moi, je n'en sais rien. » L'autre différence, c'est que Tom Joad n'avait pas fichu 40 000 dollars en l'air pour obtenir une licence de lettres. C'est-à-dire qu'il y a comme ça, cette espèce d'accumulation de petits boulots pour survivre qui l'amèneront, y compris un des trucs les plus hauts en couleur, c'est qu'il a été jusqu'en Alaska pour travailler dans une machine de conditionnement du poisson. Et justement, ce livre « Tribulation d'un précaire » raconte cet univers d'une dureté terrible. Et moi, j'avais interviewé Yann Levison à Quai du Polar il y a 5-6 ans, je crois. Et il était, à l'époque, il était encore menuisier en Caroline du Nord. Mais la situation devenait extrêmement difficile et tout. Et il en était, son activité principale à l'époque était la rénovation d'appartements après des expulsions que le shérif avait entreprises, et il était encore totalement bouleversé par ces situations dramatiques qu'il était obligé de vivre. Bon, depuis, sa situation s'est améliorée grâce aux livres, grâce à des sortes d'ateliers d'écriture qu'il est allé faire en Chine, je crois, enfin voilà. Mais bon, voilà, on est en face d'un écrivain qui est tout sauf loin du réel.
Qui connaît la vie, oui. Bah, tu as raison, Hervé, de toute manière, hein, nous voulions parler et de son dernier roman et de l'homme, hein, et de l'écrivain. Hein, donc,
et citer les autres livres, parce voilà. Que je crois, bon, le succès, moi je l'ai découvert avec le premier roman paru ici, peut-être toi aussi, mm-hmm. qui était Un petit boulot, qui a voilà. eu un joli succès. Et qui était un livre qui, déjà, on était dans une petite ville américaine il y avait eu la fermeture de l'usine unique qui avait été délocalisée, enfin un cas malheureusement très classique. Et bon, on avait un personnage qui avait perdu son boulot, qui avait perdu évidemment tout, y compris tous les objets de son appartement saisis un à un. Et il acceptait un petit boulot pour un bookmaker plutôt pas très franc du collier, plutôt mafieux, et qui était de son nouveau travail était de tuer la femme du gars en question. On était un peu dans des choses un petit peu en écho avec le couperet de Donald Westlake. Enfin, et toujours, il y avait ce mélange, dès ce livre, il y avait ce côté de critique sociale qui a jamais quitté d'une manière ou d'une autre. On va voir avec le nouveau roman que ça prend une autre ampleur, mais une critique sociale qui était toujours doublée d'un humour, très noir et assez ravageur. Enfin, je crois que tu es d'accord.
Oui, oui, on est complètement d'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est effectivement, bon, un premier titre, Un petit boulot. Ensuite, c'est Une canaille et demie. Le troisième titre, c'est Tribulation d'un précaire. Tout ça, ça, oui. ça décrit bien le parcours de Yann Levison. Mais des questions sociales traitées avec beaucoup de, tu l'as dit, hein, beaucoup d'humour, aucun misérabilisme. Enfin, bon, au contraire, on rigole même
Ouais, je crois que c'est toute la force aussi de Yann Levison, c'est que, comme tu dis, il est extrêmement lucide et extrêmement vif sur l'analyse de ce qui se passe aux États-Unis, et en même temps, il fait pas pleurer dans les chaumières.
Non.
On sort de là, on a été confronté à des choses très fortes et souvent dures, et en même temps, on a beaucoup rigolé, quand même, il faut dire ça. Ou prendre un livre de Yann Levison, il y a aussi, on peut le dire aux auditeurs, il y a une dimension de plaisir absolument évidente. Enfin,
ouais, voilà, donc il y a ces trois premiers titres qu'on a cités, ensuite Trois hommes, deux chiens et une langouste, et Arrêtez-moi là, et donc le sixième roman qui est traduit en français, tu l'as dit, par la même traductrice, Ils savent tout de vous. Et j'ai envie de dire quand même, pour moi, une petite évolution dans les romans, dans le travail de Yann Levison. Donc, les trois premiers, quand même, inspirés de son vécu, et les trois derniers, et en particulier le dernier, où la part de fiction est quand même beaucoup plus importante, je trouve. Et t'as évoqué Donald Westlake, qui est la référence au niveau du polar noir, mais cocasse aussi. américain, enfin un maître du genre, et on sent de plus en plus Ian Levinson s'inscrire dans les pas de Donald Westlake, et notamment avec ce dernier roman qui est sans doute moins inspiré de ses expériences personnelles, quoique. Mais qui s'engage vraiment plus sur le terrain de la fiction noire, avec une touche sociale non négligeable, mais d'une envergure encore plus forte, j'ai l'impression.
Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que déjà, le côté de plus en plus fictionné, de plus en plus... déjà, j'avais, comme tu dis, déjà, par exemple, avec l'avant-dernier, Arrêtez-moi là, on avait quand même encore comme personnage, avec des situations à la fois, y compris des opulentes, mais on avait un chauffeur de taxi, c'est-à-dire quand même encore aussi un peu un de ces personnages de laisser pour compte, malgré tout, de l'Amérique, et qui se retrouvait aux prises avec les dysfonctionnements de l'appareil policier, avec la justice américaine, ses travers, avec y compris la prison, le couloir de la mort, ça. Mais là, on a encore un saut, c'est-à-dire que effectivement, parlons de d'ils savent tout de vous. C'est en plus un roman qui ne s'inscrit pas dans un réalisme total, puisque il y a une dimension un peu, science-fiction, ou en tout cas de contre-utopie, d'irrationnel, puisque on va d'abord être en face à une sorte de télépathie, je crois.
C'est ça, oui, oui.
Voilà, on a, dès le départ, on est face à un personnage, un flic qui s'appelle Snow, qui est dans je crois que c'est dans le Michigan, et qui se rend compte on est face à ça dès la première page, je crois. Il se rend compte souvent, je crois que c'est devant une pharmacie où il vient d'arrêter un toxico, et que il peut lire dans les pensées des gens.
Voilà.
Et alors, ça va d'abord donner évidemment des scènes. Il va évidemment être extrêmement surpris par la chose, la vérifier. Ça va lui donner de bons retours, parce qu'on pourrait penser que ça n'est que bien tout ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il va évidemment obtenir, il va pouvoir résoudre avec une facilité déconcertante des affaires criminelles, puisque il sait si on lui ment ou pas, il sait tout quoi, tout ce qu'il y a dans la tête de l'autre, et comment les choses se sont passées, tout ça. Et d'un autre côté, ça va lui valoir aussi, il y a une scène dans une boîte où il va pour draguer, disons, qui est totalement désopilante également, il pense que ça va être un atout, et puis très vite, il sait tellement, les filles qu'il aborde, un groupe de filles, comme il croit que ça va montrer combien il s'intéresse à elle, il fait une espèce de numéro un peu de magie, et puis il s'avère pour elle qu'il sait tellement de choses qu'elle se demande ou bien si c'est un obsédé sexuel qui les suit et qui connaît tous leurs faits et gestes, ou bien si c'est un détective privé engagé par leur mari, leur petit copain, tout ce qu'on veut, pour savoir si elle les trompe pas, ce qui est quand même... voilà, donc ça, c'est quand même un revers de la médaille. Et puis, il y a un autre personnage...
Ouais, parce qu'il faut dire, Hervé, hein, bon, c'est dit à un moment du roman, il faut être un télépathe pour attraper un télépathe.
Oui.
Voilà.
Dit-on cela, parce que, mais peut-être je te laisse le présenter.
Vas-y.
Bah non, il y a un autre télépathe dans l'histoire, alors qui est pas du tout dans la même situation sociale, et qui est un type qui est avec a tué, un délinquant qui a tué un flic, et qui attend dans un couloir de la mort son exécution. C'est Denis. Ou Dinaï, je sais pas, Et puis, qui lui aussi lit dans les pensées, et il va venir lui rendre visite pour le faire en tout cas libérer momentanément, ou en tout cas le faire sortir du couloir de la mort, une jeune femme très sexy, assez mystérieuse, puisque il y a une originalité, c'est qu'elle est la seule personne dans les pensées de laquelle on ne peut pas lire. Mmh. Et d'ailleurs, Denis se demandera, mais pour quel genre d'agence cette femme travaillait-elle, bon sang ? La CIA, le FBI, elle avait accès aux affaires ultra secrètes et assez d'influence auprès du gouverneur pour qu'un détenu du couloir de la mort quitte la prison. Elle pouvait obtenir l'aide de la police militaire, des jets et des terrains d'aviation privés, mais elle n'avait jamais dit clairement à quelle agence elle appartenait. Alors, écoute, je te laisse embrayer là-dessus.
Ouais, bon, donc on peut le dire, hein, c'est aussi une histoire de services secrets, d'agents très, très spéciaux. Et donc, effectivement, au-delà des deux télépathes dont tu as parlé, il y a cette femme, hein, qui arrive, cette mi-agent très spécial, mi-ange de l'enfer. On a fait référence à Donald Westlake tout à l'heure. Moi, elle m'a fait penser, cette femme, à la fameuse Lucie de Marc Bem. Quelque part, c'est quelqu'un, effectivement, on ne sait pas d'où elle vient. Et en tout cas, elle a des pouvoirs impressionnants, à la fois de par sa position institutionnelle, mais aussi, elle est la seule, comme tu l'as dit, à ne pas pouvoir... Être découverte par un télépathe, hein, donc c'est vraiment intéressant. Puis alors, à partir de là, alors bon, ce qui m'impressionne, moi, chez Ian Levison, mais ce genre d'auteur, à Donald Westlake, c'est que quand on dit ça, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'ailleurs, les gens qui nous écoutent doivent dire, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a rien qui tient debout. Et puis, on ouvre le livre, on lit ça, effectivement, ça commence avec ce flic là, hein, qui dit, oui, dans les pensées, et puis il y a ce couloir de la mort, ce détenu qui fonctionne de la même manière. Ça paraît de plus en plus invraisemblable, et plus on avance, plus ça se tient, et puis ça se termine. On va pas donner, hein, la fin, bien entendu, hein, et ça se termine, et ça se tient vraiment très très bien, et ça amène vraiment aussi à réfléchir, hein, sur, d'ailleurs le titre est explicite, hein, sur les connexions, hein, qui font que il est peut-être même plus nécessaire de chercher à lire dans les pensées pour surveiller, oui, toute la population, voilà, quoi. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est très fort, hein.
Moi je suis tout à fait d'accord. Il y a en plus, et c'est ça, comme tu le dis, il y a une construction absolument impeccable, c'est-à-dire qu'au départ, il y a ces deux, on alterne des scènes avec Snow et puis avec Dinaï, Terry, cette agent mystérieuse, mmh, et puis le flic coffet qui les accompagne et tout dans le couloir de la mort. On se demande ces deux histoires alternes, on se demande où ça va nous mener, et puis il va y avoir une scène, des choses vont s'accélérer, notamment dans un ascenseur, ça on peut quand même le dire,
ouais,
mmh. Dinaï, le tueur va s'échapper, mmh, et à partir de là, évidemment les deux histoires, laissons le lecteur découvrir, voilà, mais vont se rejoindre.
Mmh. Et c'est à ce moment-là...
Il y a un rythme toujours aussi,
ah, ouais, ouais,
ça,
ouais.
C'est-à-dire que c'est... Il y a un rythme vraiment qui est soutenu, c'est vraiment impeccable. Et puis derrière ça, bien évidemment, il y a une espèce de parabole, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que c'est évident qu'il y a ces deux télépathes, mm-hmm, mais que derrière, ceux qui savent tout de vous, ça n'est pas que euh, les c'est loin d'être les deux télépathes en question.
Tout à fait, oui, parce que on peut considérer que les compteurs sont remis à zéro quand on dit qu'il faut être un télépathe pour attraper un télépathe. Donc, ils se retrouvent tous les deux dans une situation où l'avantage, hein, a priori, qu'ils ont sur les autres personnes, eh bien, n'est plus valable en l'occurrence.
Voilà, il n'est absolument plus valable en l'occurrence, et derrière ça, il y a un écho de tout ce qui est la surveillance généralisée de tout un système et d'un Big Brother que même Orwell n'aurait pas, j'allais dire, cauchemardé, et qui est assez un reflet du monde où nous vivons.
Alors tu disais, Hervé, que tu as rencontré Ian Levinson il y a quelques années. Tu ne l'as pas rencontré récemment, parce que je sais qu'il était en France pour la sortie de son...
Il est revenu en France, mais j'aimerais bien le rencontrer à nouveau, effectivement, parce qu'en plus c'est un homme absolument délicieux et passionnant, et qui a y compris une... Il y a une analyse des choses, tout en gardant aussi cet humour, mais qu'il y a une analyse des situations actuelles de son pays qui n'est pas convenu.
Est-ce qu'il n'y a pas un de ses derniers romans qui a été adapté au cinéma?
Je crois qu'est sorti début janvier l'adaptation du précédent, voilà. Arrêtez-moi là.
Hein, c'est bien ce qui me semble.
Je crois. Ouais. J'ai peur de dire des bêtises. Je crois qu'il y a Léa Drucker et Reda Kateb qui jouent dedans.
Oui, voilà. Tout à fait. C'est une histoire de chauffeur de taxi, hein, qui est pris dans une infernale, encore une fois, spirale. Effectivement, hein, c'est bien ça. Donc, Ian Levinson, donc, qu'on peut lire, qu'on doit lire, hein, si on s'intéresse au roman noir, on peut parler de roman noir. Ils savent tout de vous aux éditions Liana Levy.
Alors, je crois qu'on peut dire qu'on peut... On peut vraiment lire tout Ian Levinson.
Et moi, ça m'a fait penser, toujours dans cette veine, humour noir dans tous les sens, quoi. Hein, noir, humour noir. Un auteur que j'aime beaucoup aussi, Dwan Zwierzynski. Lui est publié chez Rivage et qui a sorti un dernier roman là récemment, Mort à tous les étages, c'est un Rivage noir, numéro 1004, et pareil, donc aussi des histoires d'agents très très spéciaux, et aussi des situations très improbables, et puis finalement un auteur qui arrive à construire à partir de ça quelque chose de très fort, à la fois du point de vue romanesque et du point de vue social. Donc, si vous appréciez Ian Levinson, allez voir aussi du côté de Dwan Zwierzynski.
Eh bien, je note aussi ce titre parce que je ne l'ai pas encore lu, donc merci à toi.
Mort à tous les étages.
J'ai vu une moule qui tousse. J'ai vu un serpent qui bande sur un vélo. J'ai vu une vache qui danse un tango. Je chante une chanson absurde, telle elle est. Chanson absurde, terminée. J'ai vu un renard qui fume un pétard. J'ai vu une mouette avec des lunettes. J'ai vu un poisson mouillé. Un moule à bonne santé. chansons absurdes, téléliques. Une chanson absurde, 3 minutes. Yo. Les impôts. Mon chien, il mange pas les filets de macro. Mon chien, il mange gratuit. Mon chien, il s'en fout de la poésie. Je chante une chanson absurde.
Une chanson absurde en variation en noir. Une chanson absurde de Arnaud, extrait de son dernier album. Human Incognito. Alors, pour en illustration du roman de Ian Levison, qui n'a rien d'absurde, bien au contraire, mais peut-être pour faire le lien avec un des articles de la revue 813, le dernier numéro, une séquence, une chronique, c'est un rendez-vous régulier, la playlist d'un auteur, hein, et donc cette fois dans le dernier numéro de 813, c'est la playlist d'Antonin Varenne, et dans cette playlist il y avait Arnaud, Je veux nager, Charles Ernest, et donc on pourra signaler et recommander donc à Antonin Varenne de bien d'écouter aussi le dernier disque d'Arnaud, Human Incognito. Alors Hervé, donc 813, numéro 123, hein, ça s'accumule ces numéros quand même.
Ben oui, heureusement.
Ah oui. En considérant donc que c'est une revue trimestrielle à peu près.
Donc, il en sort 3 par an.
3 par an, donc voilà. Oui, donc 3 par an. Eh ben donc ça, on va pas remonter au début parce que ça ferait un peu loin, mais en tout cas une revue qui s'inscrit dans la durée et dans la sur les questions bien entendu des littératures policières. Alors avant d'aborder la question du dossier, hein, de ce numéro consacré à James Ellroy. Un mot, Hervé, sur ce qui est quand même important, hein, dans une revue, c'est l'édito, hein, que tu signes. Alors un édito que, figure-toi, ben, j'ai beaucoup apprécié, qui n'a rien à voir avec Ellroy, absolument pas, et qui donne quelques pistes de lecture sur lesquelles... encore une fois, on se retrouve et figure-toi, ben, j'ai suivi ton conseil et hier, en préparant cette émission, ben, je me suis dit, mais il faut absolument que je file à la librairie acheter le roman de Yves Ravet Sans état d'âme, ce que j'ai fait, et j'ai même réussi à lire ce roman, tu vois, depuis hier. Il faut dire qu'il est court, il se lit vite, et puis effectivement...
Ah, c'est très plaisir, écoute. Ouais,
et effectivement, on y rentre on est absorbé, hein. Oui. C'est vraiment un très bon roman. Alors figure-toi aussi que tu m'as fait faire des petites folies, parce que bon, je me suis rendu compte quand même que venait aussi de sortir un roman de Jean Echenoz, Envoyé spécial, oui. que tu cites, son dernier roman. D'ailleurs j'étais un peu surpris, parce que bon, un roman d'Echenoz, c'est quand même un événement, on en parle beaucoup, et là je trouve que ce dernier roman, enfin bon, j'en ai pas vraiment entendu parler, bon il vient de sortir, hein, c'est
oui,
tout frais.
Discrétion que d'habitude.
Voilà, hein, j'ai cette impression-là aussi. Ouais, et puis, bon, alors j'ai failli aussi, mais je me suis dit non, je m'arrête là, parce que sinon, parce que toujours aux éditions de Minuit, il y a un roman, peut-être tu l'as lu, Le cas Annunziato de Yann Gouchard, qui me donnait aussi particulièrement envie. En tout cas, tout ça pour dire que dans cet édito, eh bien, tu évoques les éditions de Minuit et plusieurs auteurs, dont un, Tanguy Viel, que. Nous apprécions énormément, hein, tous les deux. Et donc, tu t'arrêtes plus particulièrement sur Yves Ravet. Alors,
oui, parce que Tanguy Viel, il est. Voilà, moi, je pensais que. oui, les éditions de Minuit, ça n'est pas que... Bah, évidemment, il y a l'image du nouveau roman,
bien
et
sûr.
Tout ça, mais enfin, que c'est aussi... Alors évidemment, celui qui est devenu un auteur très connu, Jean Echenoz, mais qui enfin, dès un de ses premiers romans, Cherokee, s'inscrivait très clairement dans... En tout cas, utilisait des ingrédients, mais pas comme ça, pas pour le folklore. Lui-même, Echenoz, était nourri de romans noirs. Il avait lu Hamet et les autres. C'était un des meilleurs amis de Jean-Patrick Manchette. Et il est bien évident qu'il y a des parentés. Bon, alors, il y a Echenoz qui a eu le succès que l'on sait. Et puis, quelqu'un, comme tu dis, comme Tanguy Viel, qui s'est fait un nom également et qui a, pour moi, tout à fait à voir avec le roman noir, absolument. Et puis, Yves Ravet, peut-être... Il y a déjà pas mal de livres derrière lui, peut-être un peu moins connus, et il se trouve que moi, je l'avais découvert par un conseil d'amis, et puis que j'ai lu, et tous ces, en tout cas tous les romans que j'ai lus, tous les derniers, Enlèvement avec rançon, Un notaire peu ordinaire, qui a d'ailleurs été couronné par le prix du roman noir au festival du film polar de Beaune, La fille de mon meilleur ami, et puis Sans état d'âme, que tu as, et j'en suis très heureux lu cette nuit, son dernier, sont des livres qui ont cette particularité de toujours se passer ou dans des petites villes de province et souvent même dans des périphéries, dans ces endroits il y a une fabrique, il va y avoir un centre commercial, il va y avoir, enfin bon, on imagine assez bien quoi, enfin ça. Et mettent en scène des personnages qui sont tous sauf du quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Enfin, un chauffeur routier en l'occurrence.
Voilà, un chauffeur routier. On peut trouver une serveuse de bar, voilà. On peut trouver des veilleurs de nuit, des gens qui ont fait de la prison, etc.
Un chauffeur routier, Gustave Leroy, il faut citer son nom, qui en l'occurrence va devenir pour un petit temps détective privé. C'est vraiment aussi là.
Oui.
c'est vraiment, encore une fois, très très cocasse comme situation,
mais
vraiment.
Privé aussi d'ailleurs sur une affaire dont il connaît un petit peu les ressorts par ailleurs. Si on peut.
Il n'y a pas besoin d'être télépathe, là, Gustave Leroy, pour connaître l'issue de l'enquête. Mais bon, on ne va pas tout dévoiler. Bon,
non,
en tout cas,
non,
vraiment, c'est un plaisir de lecture. Hein, donc,
et ça aussi, il y a aussi le fait, et ça c'est aussi une grande référence à mon avis au roman noir américain, c'est-à-dire que Yves Ravet, c'est un auteur, et qui d'ailleurs le dit, c'est un auteur comportementaliste, il se dit un écrivain matérialiste, pas au sens dialectique, simplement, il cherche toujours à être, ça je le citais, à être auprès de la réalité, de la vie quotidienne, du monde comme il est vécu et retransmis par des individus avec leurs problèmes sociaux, c'est-à-dire que on n'est pas du tout à l'écart du monde réel, et... il n'y a jamais non plus, on n'est pas envahi par un psychologisme quelconque, il y a, il y a aussi des dialogues qui sont courts, qui font avancer les choses, qui sont, on n'en sait pas plus sur les personnages, mais il n'y a pas des digressions, tout ça et tout, peu à peu, on se fait, je ne sais pas comment dire ça, on se fait son film à soi, on voit tout cela.
Donc Minuit, l'heure du crime, hein, tu écris, bon, et tu conclus avec un petit agacement autour de ces gens qui parlent du polar, qui se lient avec, de romans qui ont le goût de polar, qui se lisent avec le même plaisir qu'un polar, mais sans en être vraiment un, alors que, bon, ce n'est pas... On peut s'agacer de ces formules.
Oui, complètement. Bah, écoute, si je peux me permettre, parce que j'y répondais à la fin à ce que j'avais lu dans un magazine, disons, c'est toujours cette formule, mais que j'ai souvent entendue, c'est plus qu'un polar ou tout ça. Enfin, en général, écrit évidemment par des gens qui sont sans doute très compétents en d'autres. sur d'autres domaines de la littérature, mais enfin qui en général ont jamais ont dû lire trois romans noirs dans leur vie, je pense, hein, quand même. Mais et c'est cette formule que Manchette avait eu et que j'aime beaucoup. Il dit: rions en tout cas encore une fois des feuillistes qui affirment sempiternellement de tel ou tel ouvrage qu'il est davantage qu'un roman policier. Le roman noir, grande tête molle, ne vous a pas attendu pour se faire une stature que la plupart des écoles romanesques de ce siècle ont échoué à atteindre. Et voilà, c'est balancé et...
Voilà, c'est comme ça que tu conclus ton édito. Donc déjà un édito qui donne des pistes de lecture vraiment très riches, hein. Donc encore merci Hervé. Alors
il faut dire aussi, tu l'as dit quand même, pour Yves Ravet, qu'en plus de ça, parce que souvent, à tort, hein, pour beaucoup d'auteurs, les éditions de Minuit pourraient donner une idée d'austérité. Or, comme tu l'as noté, et là, dans un autre domaine, on rejoindrait Lévison, Yves Ravet, ça, on se régale à
tout
le lire.
Tout à fait. Donc voilà, notre émission se termine, donc on n'en dira pas beaucoup plus sur la revue. Bon, un dossier, Elroy, j'ai envie de dire, Hervé, un dossier peut-être plus sur l'impact de l'œuvre de l'auteur que l'œuvre en elle-même.
Oui, ça a été coordonné par Corinne Nedet. C'est un dossier parce que sur Elroy, beaucoup a déjà été écrit, bien évidemment, et c'était beaucoup sur cet impact, sur le langage d'Elroy. Là, c'est un article que nous a donné Natacha Lallemand, qui a écrit un livre sur James Elroy, voilà, comment sur la corruption du roman noir, dans le roman noir, et puis effectivement des échos donnés par Dominique Manotti, pour qui Elroy a été le déclencheur de son passage à l'écriture, elle, l'universitaire, la militante qu'elle avait été, voilà, Elroy qu'elle a commencé à écrire un premier roman sur le tard, et puis l'influence aussi chez des gens aussi différents que Janice Tiemi, que
Opel, Ingrid Astier, voilà.
Et puis Opel, dont le French Tabloïd était clairement un écho à American Tabloïd. Enfin,
et puis à signaler le pastiche 51 de Jean-Bernard Pouy, ça il faut le lire.
Oui, Jean-Bernard Pouy, qui... voilà, c'est amusé à les bonnes feuilles d'un Montargis confidentiel.
Voilà.
donc je ne sais pas s'il y aura une suite, mais enfin.
On a envie d'aller plus loin.
Oui.
Donc voilà, donc c'est le sommaire de ce numéro 813, numéro 123. Allez-y voir. Je recommande aussi les chroniques Seconde Chance, que tu signes avec Gonal Dunoyer.
Hervé. Cette fois, on a choisi un livre qui s'appelle True Confessions, qui était sorti sous le titre de Sanglante Confidence, je crois, à l'époque par les humanoïdes associés, il y a longtemps de ça, et qui est... qui est un livre, très, très, très important, avec comme fond l'affaire du Dahlia noir et tout, mais qui met surtout en scène deux frères irlandais, un flic et un évêque, enfin, ce livre est assez, plutôt un régal,
Donc voilà, écoute Hervé...
Et puis effectivement, la musique d'Antonin Varenne et la chronique de François Guérif et Jeanne Guyon sont
un
réalisateur de cinéma très intéressant qui est Robert Wise.
Donc... beaucoup d'idées de lecture dans ce numéro, mais aussi des films. Il y a aussi les cases noires, la rétrospective 2015 de la BD. Donc plein de bonnes choses.
Voilà.
C'était Variation en noir sur Radio PFM dans Variation, le dernier vendredi du mois. Une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Merci à Bernard de nous accueillir, toujours aussi amicalement dans son émission. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir Bernard, et puis à très bientôt.
Voilà, rendez-vous fin février pour de nouvelles explorations en noir, et d'ici là, de très bonnes lectures à toutes et à tous.